Eroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 25 août 2016. Au sommaire ce soir.
Présidentielle au Gabon, les candidats mettent les bouchées doubles, 3 jours avant le scrutin. Notre envoyé spécial fera le point.
Zimbabwe, la contestation anti-Mugabe semble gagner du terrain.
Un jour après un séisme dévastateur, l'Italie s'interroge. Le bilan a déjà dépassé 240 morts.
Attaque contre l'université américaine en Afghanistan, on compte au moins 12 morts.
Présidentielle américaine, Donald Trump veut s'inspirer du Brexit.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Eh bien...
Les candidats à l'élection présidentielle de dimanche au Gabon s'activent pour tenter de convaincre les électeurs encore indécis. En même temps, ils consolident leur base, espérant une forte participation, notamment dans le cas des deux principaux candidats, le président Ali Bongo et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Nous avons sur place notre envoyé spécial Idriss Fall qui fera le point un peu plus tard dans cette édition.
Le journaliste Giza Steve Irakoze a été libéré au Burundi. C'est ce que rapporte l'organisation SOS Média. Notre confrère était accusé d'atteinte à la sûreté de l'État.
La 9e réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine s'est tenue aujourd'hui à Bangui. C'est le président Faustin Archange Touadéra qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre, placée sous le signe du soutien et de la solidarité de la communauté internationale au gouvernement et au peuple centrafricain.
Les appuis multiformes apportés ont permis le retour à la paix et à la légalité constitutionnelle. La République centrafricaine a toujours besoin du soutien et de la solidarité de la communauté internationale. La situation demeure fragile et précaire. Celle-ci nécessite un accompagnement soutenu de la communauté internationale. La RCA est sur la bonne voie. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à consolider cette chaîne de solidarité pour non seulement pérenniser les acquis, mais aussi conduire le pays vers un avenir serein et prospère à travers un cadre plus adapté à l'évolution de la situation.
Faustin Archange Touadéra, chef de l'État centrafricain.
Lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire a présenté un nouveau patrouilleur, dernière étape d'un effort pour sécuriser son espace maritime. Le bouclier est la 3e acquisition de navires de la flotte ivoirienne pour combattre les pirates.
Le nouveau chef de Boko Haram, désigné par l'organisation État islamique, n'est pas vraiment un inconnu. Abou Moussab al-Barnaoui, à peine 22 ans, n'est autre que le fils du fondateur du groupe djihadiste nigérian, Mohamed Youssouf. Rappelons qu'Abou Moussab al-Barnaoui est censé remplacer Aboubakar Shekau, mais ce dernier conteste son autorité, affirmant lui aussi être le chef de Boko Haram.
Au Zimbabwe, un mouvement de contestation d'une rare ampleur gagne le pays depuis quelques mois. Et pour l'heure, ce vent nouveau réussit à résister à la répression du régime de Robert Mugabe, confronté à la faillite de l'État et la pauvreté grandissante. Eric Manirakiza.
Les anti-Mugabe n'ont plus peur de sortir dans la rue dans le Zimbabwe dirigé d'une main de fer depuis 1980. Chauffeurs de bus, fonctionnaires réclamant leur salaire, militants de la société civile ou pasteurs, bravent la répression du régime de l'indétrônable Robert Mugabe. Pour ces contestataires, le départ du plus vieux chef d'État au monde est devenu un point non négociable. Selon l'analyste politique Dumisani Nkomo, l'état de l'économie et les niveaux énormes de pauvreté poussent les gens à aller dans la rue parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, dit-il. Stendrik Zvogwaza, l'une des figures de la contestation et à la tête d'une association de dizaines de milliers de vendeurs de rue, explique que la contestation actuelle est le prélude à de plus grosses manifestations qui vont voir son gouvernement partir ou venir à la table des négociations pour écouter le peuple. Aujourd'hui, les principaux leaders de divers partis d'opposition ont appelé à manifester pour demander une réforme du code électoral en vue du scrutin général de 2018. Cependant, Robert Mugabe refuse de se laisser impressionner et réaffirme son autorité à mater la contestation.
Les employés de la société nouvelle des phosphates du Togo ont déclenché mercredi une nouvelle grève de 48 heures, aucun accord n'ayant été trouvé à leurs revendications. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant une source syndicale.
Au Cameroun, Greenpeace demande la suspension d'un projet de plantation d'EVA dans le sud du pays. L'ONG internationale s'inquiète des risques de déforestation et de la menace que le projet représenterait pour une réserve naturelle classée par l'UNESCO.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Italie s'interroge sur les raisons d'un bilan d'au moins 241 morts au lendemain du séisme meurtrier qui a réduit à l'état de ruine plusieurs villages dans le centre du pays. La protection civile a ramené à 241 contre 247 précédemment le bilan des victimes, prévenant toutefois qu'il pouvait encore s'aggraver. Les précisions de Tatiana Musso.
La population de ces villages pittoresques et touristiques triple ou quadruple l'été, rendant difficile l'évaluation du nombre de personnes présentes sur les lieux au moment du drame. La responsable du département des situations d'urgence de la protection civile italienne a indiqué qu'il y avait désormais quelque 270 blessés hospitalisés. En revanche, toujours pas d'indication sur le nombre de disparus. Des chiffres allant de moins de 50 à plusieurs centaines ont circulé et il restait difficile jeudi d'avoir une évaluation précise. L'hôtel Roma, complètement détruit à Amatrice, l'un des villages les plus touchés, a fait craindre le pire. Le propriétaire de cet hôtel a assuré aux secouristes que nombre de ses clients, un peu plus d'une trentaine, étaient parvenus à se mettre à l'abri au début du tremblement de terre. Reste l'exemple incompréhensible pour certains, scandaleux pour les autres, de l'école d'Amatrice rénovée en 2012 pour l'adapter aux normes antisismiques et réduite à l'état de décombre. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par le procureur de Rieti pour évaluer d'éventuelles malversations à Amatrice et dans les villages concernés.
Au moins 12 personnes ont été tuées lors d'une attaque contre l'université américaine d'Afghanistan à Kaboul, qui a duré plus de 10 heures dans la nuit d'hier à aujourd'hui, pendant lesquelles des étudiants ont lancé de poignants appels à l'aide. Les détails avec John Linden.
L'attaque contre cet établissement d'élite qui accueille 1700 étudiants n'a pas été revendiquée pour l'heure. Deux de ses professeurs, un Australien et un Américain, avaient déjà été enlevés en début du mois, sans que leur rap ne soit revendiqué non plus. Le nombre d'assaillants n'est pas clair, mais la police de Kaboul a indiqué avoir tué deux d'entre eux lors de leur opération de sécurisation du campus à l'aube. L'armée afghane, assistée par des conseillers militaires de la coalition internationale, dirigée par les Américains, a rapidement encerclé le campus. Des centaines d'étudiants ont été évacués pendant la nuit. L'augmentation du nombre d'étudiants et surtout d'étudiantes allant à l'université est saluée comme une réussite depuis la chute en 2001 du régime taliban qui avait interdit l'éducation des femmes. Cette attaque, la première de cette ampleur contre une université d'envergure en Afghanistan et en plein Kaboul, intervient alors que les rebelles talibans sont à l'offensive dans tout le pays contre le gouvernement soutenu par les Occidentaux.
En Turquie, attaque contre le président du principal parti d'opposition. Au bilan, un soldat tué et deux autres blessés. Selon le ministère de l'Intérieur, des membres du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, ont ouvert le feu sur le convoi de Kemal Kılıçdaroğlu, chef du parti social-démocrate CHP. Ce dernier a déclaré à la chaîne CNN Turque qu'il est sorti indemne de cette attaque aujourd'hui à Artvin, dans le nord-est de la Turquie. Le PKK, qui n'a pas encore réagi, avait déjà mené des attaques dans cette région du nord-est du pays, pourtant éloignée de sa zone d'opération traditionnelle.
Réunion de l'OPEP le mois prochain en Algérie. L'Iran se ravise et décide d'y participer. Le ministre du Pétrole, Bijan Amdar Zangane, l'a confirmé aujourd'hui à l'agence Shana, organe du ministère iranien du Pétrole. À cette rencontre informelle, les pays exportateurs de pétrole chercheront un gel de la production iranienne afin de pousser les prix à la hausse. La réunion de l'OPEP coïncidera avec un forum sur l'énergie à Alger.
Le Sénat brésilien a ouvert le procès final en destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff. Selon tous les pronostics, ce procès devrait mettre fin à 13 ans de gouvernement de gauche dans la première économie d'Amérique latine. Dilma Rousseff avait succédé au très populaire Luiz Inácio da Silva, Lula. Sauf énorme surprise, c'est Michel Temer, 75 ans, son ancien vice-président de centre-droit devenu rival, qui dirigera le Brésil jusqu'aux prochaines élections présidentielles et législatives prévues en 2018. Dilma Rousseff se défendra personnellement lundi devant le Sénat.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
190 millions de dollars, c'est le montant de la somme que la Tanzanie entend mobiliser pour financer les travaux d'expansion du port de Dar es Salaam. Le financement proviendra des prêts concessionnels et des subventions négociées auprès des différentes institutions, dont 600 millions de la Banque mondiale. Le port de Dar es Salaam gère environ 95% du commerce international de la Tanzanie et c'est le deuxième plus grand port d'Afrique de l'Est après celui de Mombasa au Kenya. Ali Dangote tisse sa toile dans le secteur bancaire. Le milliardaire nigérian a officiellement lancé la première banque entièrement digitale au Nigeria. Cette banque devrait offrir ses services à plus de 40 millions de personnes exclues du système bancaire traditionnel. Les États-Unis ont apporté leur soutien à l'actuel président de la Banque mondiale, l'Américain Jim Yong Kim, candidat à un second mandat à la tête de l'institution de développement multilatéral. Un accord tacite veut qu'Américains et Européens se partagent la direction des institutions de Bretton Woods, les premiers prenant la tête de la Banque mondiale, tandis que les seconds dirigent le FMI. Mais cette tradition risque d'être à nouveau contestée par les pays émergents qui veulent être davantage représentés.
La page sportive présentée ce soir par Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Parlons de la Ligue des champions en Europe. Le tenant du titre, le Real Madrid avec Borussia Dortmund, le Sporting Portugal et le Sporting Lisbonne et Legia de Varsovie.
Oui, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Le champion en titre, le Real Madrid, a hérité d'un groupe F plutôt accessible où il sera opposé au Borussia Dortmund, comme vous dites, au Sporting Portugal et au Legia Varsovie. Selon le tirage au sort donc de ce jeudi à Monaco.
Et le Barça.
Alors, le grand rival du Real a pour sa part hérité d'un groupe C très relevé avec face à lui le Manchester City de Pep Guardiola, les Allemands du Borussia Mönchengladbach et le Celtic Glasgow.
Vous n'avez rien dit de l'Atlético.
Eh bien, finaliste en mai dernier, l'Atlético Madrid trouvera sur son chemin dans la poule D le Bayern Munich, le PSV Eindhoven et Rostov qui a humilié l'Ajax d'Amsterdam hier, c'était 4-0 lors d'une phase. Ce groupe donc aura lieu donc lors d'une phase qui débutera les 13 et 14 septembre et va s'achever les 6 et 17 et 7 décembre, pardon. Le dernier des quatre clubs espagnols chérubins en lice, le triple tenant du titre de l'Europa League, le FC Séville, n'a lui non plus était gâté par le tirage au sort puisqu'il affrontera dans le groupe H la Juve de Turin, Lyon et le Dynamo Zagreb. Et ajoutons que le champion d'Angleterre surpris, Leicester, a en revanche eu de la chance puisqu'il a évité les principaux cadors européens pour retrouver dans le groupe G des adversaires a priori à sa portée, le Porto et Bruges de la Belgique et ensuite Copenhague.
Revenons sur Rio 2016. Nairobi annonce la dissolution du comité national olympique.
C'est ce qu'on appelle en anglais le fallout. Le ministre kenyan des sports, Hassan Wario, sous pression à la suite d'une série de scandales et faux pas de responsables kenyans au JO de Rio, a annoncé ce jeudi la dissolution du comité national olympique qui a aussitôt rétorqué que le gouvernement n'en a pas le pouvoir. Le secrétaire général du NOC, le comité olympique, donc Francis Paul, a rétorqué que lors de la même conférence de presse que son organisation dépend du CIO, le Comité international olympique, et non du gouvernement kenyan, et que ce dernier n'a donc pas le pouvoir de le dissoudre. Nous ne quitterons pas nos bureaux et en ce qui nous concerne, nous sommes toujours en fonction.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guiriec et Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, le Gabon.
La présidentielle est prévue pour ce samedi 27 août et la campagne se termine demain à minuit après les derniers grands meetings pour convaincre dans la capitale. Deux poids lourds de l'opposition, Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, et Guy Zumba Ndama, ancien président de l'Assemblée, se sont rangés derrière Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Ils espèrent ainsi déboulonner le président sortant, Ali Bongo Ondimba. Avec les récents ralliements, combien de candidats sont restés dans la course à la présidence au Gabon? En exclusivité sur la VOA, notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall, fait un état des lieux avec René Abougué-Ela, président de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente.
Il y avait eu 14 candidatures validées au mois de juillet dernier. Avec les retraits qui sont intervenus, il en reste 11. Donc nous avons 11 candidats en liste pour le scrutin de samedi prochain.
Il y a combien de bureaux de vote et combien d'électeurs?
Il y a 2580 bureaux de vote qui seront ouverts pour 628 124 électeurs.
Est-ce que tout est fin prêt?
Tout est pratiquement prêt. Il y a des petits réglages pour corriger les petites insuffisances, mais l'essentiel est déjà prêt pour que le scrutin se tienne convenablement samedi prochain.
Les bureaux de vote vont ouvrir à quelle heure et fermer à quelle heure?
Bon, la loi prévoit que le bureau ouvre à 7 heures et ferme à 18 heures. Bon, on peut toujours en pratique enregistrer quelques retards, mais nous pensons que nous devrions avoir tous les bureaux ouverts au plus tard à 8 heures.
Et les opérations de dépouillement des bulletins alors?
Les dépouillements se font immédiatement après la fermeture des bureaux, au niveau des bureaux de vote. Et ensuite, les résultats sont acheminés au niveau des commissions électorales de centralisation. Ça prend un peu plus de temps puisqu'il faut pouvoir centraliser l'ensemble des bureaux d'une circonscription. Ce qui fait que nous n'espérons pas avoir des résultats significatifs avant 48 heures.
Mais ce n'est pas la CENAP qui proclame, c'est le ministère de l'Intérieur.
Les résultats établis, constatés et validés par la commission électorale. Donc, le ministre, effectivement, au regard d'instruction de la loi, annonce les résultats, mais confectionnés par la commission électorale.
Vous pensez que ça va se passer quand même dans le calme?
C'est ce que nous souhaitons et nous n'avons aucune raison de croire qu'il y aurait des troubles. Aucune. En particulier en dépit du fait que la compétition est très âpre.
René Abougué-Ela, président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, ou CENAP, au Gabon.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Rio 2016, c'est fini, les Jeux sont faits. Le continent africain a décroché au total 45 médailles. C'est historique, mais cette question revient sur le tapis. L'Afrique fait-elle assez pour ses sportifs? L'athlétisme, par exemple, est-il bien géré pour encourager les nombreux talents dans les 54 pays africains? Quelle la solution pour une meilleure moisson de médailles dans les grandes compétitions internationales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burundi, la Commission nationale pour le dialogue interburundais a rendu publique hier les conclusions issues des consultations organisées à travers tout le pays. Elle recommande notamment la révision de la Constitution pour faire sauter le verrou des mandats présidentiels limités à 2 par le texte en vigueur. Les anciens chefs d'État devraient aussi perdre leur mandat de sénateur à vie. Pour réaction, Eric Manirakiza a joint à Bujumbura le président de l'Alliance démocratique pour le changement, la plateforme de l'opposition intérieure, Léonce Ngendakumana.
D'abord, il n'y a pas de commission de dialogue inter-burundais au Burundi. Et donc, il n'y a pas eu de rapport qui engage le peuple burundais dans ce qu'ils appellent le dialogue inter-burundais. Ce qui a été rendu public hier, c'est un drame, c'est un scandale, c'est une honte pour cette commission. C'est un mépris du peuple burundais. C'est aussi une honte pour un monseigneur qui est censé parler au nom des citoyens qui souffrent et qui rend public un rapport qui insiste uniquement sur le troisième mandat. Sur le fait que le président Nkurunziza doit rester à la tête du pays toute sa vie et que notre préoccupation du peuple serait le départ des ex-chefs d'État du Sénat, en oubliant que le peuple burundais aujourd'hui est préoccupé par la guerre, par les massacres, les assassinats qu'on observe chaque jour, les enlèvements, les disparitions, les emprisonnements, une économie en ruine, une école fondamentale qui risque de jeter dans la rue plus de 150 000 élèves et écoliers. C'est une négation même de ces négociations qui sont en cours à Arusha. C'est pour dire qu'on n'en a plus besoin. C'est une radicalisation politique. C'est confirmer que le pouvoir de Bujumbura a pris la voie militaire pour résoudre tous ces problèmes.
Vous dites qu'il n'y a pas eu de dialogue, mais on a vu des sessions organisées à travers tout le pays.
Je vous dis que ces sessions visait à faire accréditer la thèse de Pierre Nkurunziza que l'accord d'Arusha n'a plus de valeur et que la constitution qui consacre les mandats doit être révisée pour supprimer ces mandats. Et c'est ça qui vient d'être confirmé d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour engager le peuple burundais, il faut soit organiser un référendum ou passer par le Parlement qui est le véritable représentant du peuple qui mandate.
Peut-être que c'est l'une des voies qui suivra.
Avant que cette voie nous suive, on ne peut pas dire que le peuple burundais s'est exprimé en cette direction. L'opposition, par exemple, n'a jamais été consultée. C'est de la machination.
Et quelle sera l'attitude de l'ADC ou de l'opposition tout court?
C'est clair. Ça ne nous engage pas. Ça n'engage pas le peuple burundais. C'est de nous laisser. C'est sans respect ce rapport.
Par rapport à l'accord d'Arusha, s'agit-il d'une avancée ou d'un retour en arrière?
C'est évident. Ce n'est pas un retour en arrière. Ça veut dire que maintenant, l'accord d'Arusha qui avait consacré la démocratie et la bonne gouvernance comme fondement du gouvernement, chaque gouvernement du Burundi, qui avait consacré comme priorité la paix et la sécurité pour tous, qui avait consacré la réhabilitation de toutes les victimes des différentes tragédies que le Burundi a connues, la reconstruction du Burundi, qui avait consacré qu'aucun gouvernement du Burundi ne pouvait plus recueillir les causes historiques du peuple burundais. Vous comprenez que lorsque tout cela est remis en cause, moi je parle de la négation même de la nation burundaise.
Léonce Ngendakoumana à Bujumbura.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À moins de trois mois de la COP22 qui se tiendra au Maroc, les questions d'environnement du continent africain restent prioritaires. Réchauffement climatique, déforestation ou encore le trafic illégal d'espèces protégées. Temps de priorité pour le docteur Juliette Koundé-Nou-Po-Bioa, directrice du Bureau Afrique au Programme des Nations Unies pour l'environnement. De passage à Washington, elle fait le point sur ces sujets avec Tatiana Mousseau.
D'abord, c'est déjà heureux vraiment que cet accord il soit universel et qu'on soit passé d'un moment où on s'est mis à se condamner mutuellement en disant c'est la faute d'un tel, c'est la faute des pays développés, c'est pas la faute des pays en développement, pour se dire finalement nous sommes tous affectés par ce problème-là, nous avons une responsabilité commune. Mais là où il reste encore des choses à clarifier, on a dit que c'est une responsabilité commune mais différenciée, il faut vraiment pouvoir clarifier ça à la COP22 pour dire en fait c'est quoi, quel est le contenu qu'on donne vraiment à cette approche différenciée même si la responsabilité est commune. Parce que le moment est venu de parler des moyens de mise en œuvre des ambitions qu'on s'est fixées. Alors s'il faut mettre les moyens en place, il y a quelque part une responsabilité à assumer. Ça doit être clarifié parce que les pays développés ont suivi vraiment tout le processus, même jusqu'à New York pour aller ratifier. C'est bon de ratifier, c'est bon de faire des déclarations, c'est bon d'applaudir, mais il faut bien mettre en œuvre quelque chose.
C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi aujourd'hui la déforestation est un vrai cancer pour le continent africain?
Lorsqu'on se débarrasse des forêts aujourd'hui, on sait ce que l'impact que ça peut avoir sur les terres, l'impact que ça peut avoir sur notre cadre de vie, l'impact que ça peut avoir sur les subsistances des populations. Et lorsqu'on sait qu'en Afrique, les populations dépendent presque entièrement des ressources naturelles, et vous pouvez vous imaginer ce que ça peut donner au niveau des communautés à la base. Il n'y a pas une réelle appropriation. On s'est plus focalisé sur les aspects technicistes en oubliant la prise en compte des préoccupations des populations. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'on dit aux populations « ne coupez pas les arbres », leur a-t-on proposé des alternatives crédibles?
Les ONG, une instance comme la vôtre, cible particulièrement le trafic illégal des espèces protégées.
Le commerce illicite de la faune est devenu vraiment un fléau mondial parce que le rythme avec lequel ça se fait et la manière dont ça se fait, c'est alarmant. 100 000 éléphants ont été tués entre 2010 et 2012. Et ça continue. Et ça prend même une allure, en fait, de crime. On parle maintenant de crime organisé.
Juliette Koudenoukpo-Biao, directrice du bureau Afrique au programme des Nations Unies pour l'environnement.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump cherche à s'inspirer du Brexit en invitant Nigel Farage, ex-leader du parti britannique UKIP, qui avait battu campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce jeudi, à Reno, dans le Nevada, la candidate démocrate Hillary Clinton va tenter de son côté de lier M. Trump à la droite alternative, ce que rejette d'avance le candidat républicain. Timothée Donangmai, on fait le point.
Le républicain Donald Trump a invité Nigel Farage, cheville ouvrière de la campagne à succès pour le Brexit, à se joindre à lui lors d'un meeting électoral mercredi soir à Jackson dans le Mississippi. Il a rappelé particulièrement l'expérience des partisans du Brexit que les sondages donnaient perdant, mais qui, à la surprise générale, ont gagné le référendum pour le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Devancé dans les sondages d'opinion par la candidate démocrate Hillary Clinton, le candidat républicain espère pouvoir lui aussi réaliser un tour de force similaire lors de la présidentielle de novembre. Dans l'espoir de l'y aider, le Britannique Nigel Farage lui a exprimé un soutien appuyé. « Si j'étais américain, je ne voterais pas pour Hillary Clinton, même si vous me payez », a-t-il lancé à l'assistance, ajoutant « Vous pouvez sortir, battre les sondeurs, les commentateurs, battre Washington et vous pouvez y arriver en procédant comme nous l'avons fait pour le Brexit. » Farage a décroché une pique en direction du président Barack Obama, à qui il reproche d'avoir, avant le référendum du 23 juin en Grande-Bretagne, exhorté les Britanniques à réitérer leur attachement à l'Europe.
Donald Trump, qui tente d'élargir son électorat, a rencontré ce jeudi à New York des membres d'une initiative du Parti républicain visant à recruter pour la campagne électorale des volontaires issus des minorités. Cependant, la démocrate Hillary Clinton entend le dépeindre comme un partisan de la droite alternative.
Appelée alt-right, en anglais, droite alternative, pour la distinguer de la droite traditionnelle, c'est un courant conservateur lié notamment aux suprémacistes blancs. Ce courant veut préserver l'identité blanche, les valeurs occidentales, et ses militants s'attaquent de plus en plus aux minorités raciales, à la gauche et aux politiquement corrects. Ce jeudi, à Reno, dans le Nevada, la candidate démocrate Hillary Clinton compte accuser Donald Trump d'embrasser l'extrémisme au lieu de se soucier de tous les Américains sans distinction de chapelle politique, a fait savoir John Podesta, président de l'équipe de campagne de Clinton. Il faut dire que les propos de Trump attirent un nombre croissant de membres de la droite alternative, notamment sa promesse d'expulser les 11 millions de sans-papiers vivant aux États-Unis. M. Trump n'a jamais utilisé ou approuvé l'expression « droite alternative » et continue de rejeter tout groupe ou individu lié à ce message de haine, a fait savoir dans un communiqué Hope Hicks, porte-parole de la campagne du candidat républicain.
Merci Timothée Donangmai.
Et c'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Souleymane Tarawale à la console. Présentation Morgane Guériec et Chérubin Gabitorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, 1 700 000. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.